Bac FM, bienvenue si vous nous rejoignez, je m'appelle Théo, je vous accompagne. Que vous soyez en voiture, au boulot, voire même entre amis autour d'une table à jouer aux cartes. Alors justement, les cartes, transition trouvée, j'ai pas fait exprès, l'oracle végétal, c'est un projet mené à l'école des remparts de la Charité-sur-Loire pour la classe de CM1, c'est à l'initiative de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et surtout d'Aurélie Beulaire, que j'ai le plaisir de recevoir dans le studio. Bonjour Aurélie.
Bonjour Théo.
Alors vous êtes diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Dijon, finaliste pour le prix Talent Contemporain 2015 de la Fondation François Schneider. Vous avez participé à de nombreuses expositions collectives et puis vous avez bénéficié également d'une exposition aux ateliers Vortex à Dijon et à la galerie Jérôme Pochard.
Pochant.
Vous êtes ici pour nous parler du projet L'Oracle Végétal pour les élèves de CM1 de l'école des remparts de Charité-sur-Loire, je le disais à l'instant. L'objectif final, c'est la création d'un jeu de cartes de 22 cartes fabriquées en papier recyclé et toile de peinture. C'est un projet mené du 7 au 21 mars, ce qui a permis plusieurs étapes. On va revenir sur les différentes étapes, mais avant, comment les élèves ont accueilli ce projet lorsque vous avez présenté, c'était le 7 mars.
Ils sont toujours plutôt enthousiastes à l'idée de faire autre chose que des mathématiques, ou de l'histoire et de la géométrie. Donc les accueils des enfants sont toujours très joyeux, aussi parce qu'ils espèrent beaucoup le moment où on passe à la pratique.
Et c'est le moment le plus ludique pour eux.
C'est le moment le plus important pour eux. Ouais.
Le lendemain, vous avez mis en place un atelier, on peut dire qui c'était un tour d'émotion.
Oui, en fait, c'est étroitement lié au projet. Ce qui se passe, c'est que j'ai pu être au contact des élèves à travers différentes fonctions, puisque j'ai été professeure dans le secondaire d'art plastique. Et puis récemment, j'ai travaillé en tant qu'animatrice socioculturelle dans un établissement scolaire à pédagogie active. Et donc, j'ai pu rencontrer les élèves sur leur temps extra et parascolaire, c'est-à-dire sur leur temps libre, mais au sein des établissements scolaires. Et donc, ça m'a permis d'observer les enfants dans les liens qui se tissent entre eux et les conflits. Et j'ai pu observer ça pendant un an et j'ai été fascinée par ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les conflits naissaient en fait d'un manque de vocabulaire. Et ce vocabulaire est lié à la mise en mots des émotions. Et donc, quand on ne sait plus dire, on en vient à la violence physique. Donc, j'avais vraiment envie de créer un outil pédagogique et artistique pour pouvoir en fait ouvrir l'éventail du vocabulaire émotionnel pour que les enfants aient pour maintenant et surtout pour le futur, des outils pour communiquer, non pas positivement, mais communiquer le soi, quoi, et être en paix dans ses relations avec les autres.
C'est ressortir un petit peu ses émotions à travers les œuvres, c'est ce que font majoritairement les artistes aussi, multiples qu'ils soient.
Là, pour le coup, l'œuvre, c'était un prétexte. Pour moi, c'était vraiment un travail où il devait en fait avoir un support, parce que c'est toujours difficile de parler de soi, parce qu'on n'a pas les outils au niveau du vocabulaire. Quand on parle des émotions, en fait, on apprend aux enfants, et encore pas tous, 5 émotions, qui sont la peur, la colère, la joie, la tristesse et le dégoût. Sauf qu'en fait, les raisons, il existe différentes peurs, il existe différents dégoûts, et en fait, on manque terriblement de mots pour pouvoir communiquer et dire les météos intérieures. Et le travail des philosophes, par exemple, c'est d'inventer des mots pour des idées manquantes. On a inventé des formes pour des mots manquants quant aux émotions. Voilà.
Le début de cette création, elle a été appuyée par une œuvre, ça s'appelle Le Tarot de Marseille,
ouais,
de Pierre Madenier, je le prononce bien.
Oui, je crois.
Fait en 1709, d'où le lien que je faisais justement en présentation. Pour l'histoire, Pierre Madenier, il a vécu à Dijon, en Bourgogne, ouais, chez nous. Pourquoi cette œuvre ?
Alors, c'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre plastique au sens où on l'entend dans un monde contemporain.
Oui.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 1709, il y a eu un hiver en Europe terrible et les aristocrates s'ennuyaient fort parce qu'ils étaient enfermés chez eux. Et donc, le duc de Bourgogne a commandé à Pierre Madenier, qui était donc en fait un éditeur, un jeu de cartes qui permettait en fait de réunir les aristocrates le soir pour pouvoir échanger et discuter sur les problématiques de la journée. Et donc, comme son nom le porte très très bien, ça s'appelle le tarot de Marseille, pour une raison obscure.
Oui, c'est vrai, parce que pour le coup, Marseille n'était pas encore en Bourgogne.
Non, mais en fait, c'est parce que, si vous voulez, c'est un objet populaire, et donc, en fait, du coup, ça a pas, il n'y a pas une première œuvre, il n'y a pas un premier objet, c'est-à-dire il y a une suite d'appropriations, comme ça, et donc de réinterprétations. Par contre, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que quand les cartomanciers, sières, lisent les cartes, elles les décryptent, elles les analysent de la même façon que lorsqu'on décrypte ou qu'on lit une œuvre ou une peinture. Et donc, ce tarot, c'était vraiment, encore une fois, un prétexte pour donner des outils aux enfants pour pouvoir décrypter les œuvres. Puisque selon si le personnage regarde sur la droite ou la gauche, ou ça indique une action passée ou future, si c'est féminin ou masculin, ça indique une intention du genre dit féminin ou du genre dit masculin. Donc, en fait, il y a tout un tas d'événements qui se passent dans ces cartes et qui sont très faciles parce que c'est l'illustration. Et donc, c'est facile pour les enfants de pouvoir les décrypter. Là où, sur des peintures plus ou moins figuratives, c'est plus compliqué.
C'est facile pour eux de comprendre ça. Étant en CM1, ils ont quel âge en CM1 ? Ils ont 8-9 ans, autour. C'est facile pour eux de comprendre, de ressentir ces émotions-là à travers, justement, des cartes, à réussir à les lire, comme vous l'exprimez là, au micro ?
Non. Non, c'est pas facile, mais alors ça vient pas des enfants, ça vient dans le fait que en fait, on n'a aucune éducation affective. Donc, du coup, non, c'est pas facile de ressentir, et non, c'est pas facile de comprendre, et donc de dire ce qu'on ressent, même par rapport à un objet. Donc moi, j'ai fait un travail d'accompagnement, donc déjà avec eux sur le tour des émotions, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment je me sens aujourd'hui, quels mots je peux employer pour dire comment je me sens quand on sort de la météo, c'est-à-dire aujourd'hui c'est soleil, etc., pluie, orage. En fait, je leur ai donné, je les ai pas laissés tout seuls avec ces cartes, on les a analysés ensemble. Ils savent qu'il y a un langage, on a vu ensemble le langage couleur, c'est-à-dire qu'en fait, chaque couleur employée par le tarot de Marseille a une symbolique. Le rouge, très étonnamment, c'est la couleur des émotions, enfin des passions. Le vert, c'est la couleur employée pour représenter la nature, donc la renaissance. Le jaune va référer à tout ce qui est de l'ordre du sacré, parce que c'est quand même un objet qui fait référence à la Bible. C'est les richesses, mais les richesses spirituelles et matérielles. Donc ça, je les ai accompagnés. Ils l'ont pas deviné, ça se devine pas, c'est quand même des outils culturels, mais après le sentiment que eux, c'est-à-dire ce que eux pouvaient dire de la carte, comment ils se sentaient par rapport à la carte, ça leur était tout à fait personnel. Et il y a des cartes qui sont quand même qui peuvent mettre mal à l'aise enfant comme adulte. Je pense à la carte du diable, qui est la carte de l'excès, où on voit un personnage qui a à la fois les attributs féminins et à la fois les attributs masculins.
Oui, ça, ils arrivent quand même à le déceler malgré leurs yeux d'enfant, oui.
Ah bah, c'est évident. Je me suis demandé, on a beaucoup réfléchi avec Ludovic Dacosta, qui était donc l'enseignant. Par exemple, l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort, Pierre Madénier l'a pas titré tellement elle faisait peur, on pouvait pas dire tellement c'était inquiétant. Je suis obligée de passer par une phase avec les enfants où ils disent ce qu'ils ressentent et qu'ils se sentent surtout accompagnés et pas seuls, livrés avec leurs émotions face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
Et puis si on avance progressivement dans le temps, on arrive les 10 et 11 mars, les élèves ont créé leurs propres cartes dans l'objectif de les tirer derrière. Ensuite, dans la semaine du 14 au 20, donc, et puis vous dites que ce qui est ressorti de ce tirage, c'est que chaque résultat de carte faisait lien avec une situation intrapersonnelle de chaque enfant.
Oui. Alors juste pour revenir sur la fabrication des cartes, la génération qui arrive est très sensibilisée à toutes les problématiques de recyclage, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'en fait, on s'inquiète des économies sur certains points parce qu'on en entend beaucoup parler, mais du coup il y a parfois des dépenses inutiles sur plein d'autres sujets auxquels on prête pas attention. Et donc pour moi c'était important que on utilise tout leur brouillon qui décolle, c'est-à-dire tout ce qui normalement aurait dû être mis à la poubelle et qui est synonyme d'échec, de ce qui n'a pas été réussi, de ce qui était raté. C'était pour moi très important de le réemployer pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes leur carte en papier recyclé. Donc ça donne vraiment déjà un projet qui est unique, c'est-à-dire que chaque carte est unique au sens où l'enfant a son propos par rapport à cette carte, mais aussi du fait qu'il l'ait fabriquée, elle a ses aspérités, ses défauts, elle a une identité propre. Ça, c'est la première chose, et je ne me rappelle plus de la question.
La question, elle était que vous étiez rendu compte que ce qui ressortait de ces tirages, c'est qu'il y avait un lien avec une situation intrapersonnelle de chaque enfant.
Ouais.
Il ressortait une émotion certaine.
Bon, alors ça, c'est... Donc, toutes nos séances, elles commençaient par le tour des émotions. Donc, on prenait bien quand même 20-30 minutes.
Chaque séance.
Parce que pour déployer l'éventail, justement, du vocabulaire, ça prend du temps. Et qu'il faut inventer des mots et que c'est un travail de labour. Enfin, il faut chercher ces mots. Et du coup, on commençait par là. Et puis, donc.
Il y a une sorte de psychologie dans ce que vous avez fait un petit peu. Est-ce que vous le voyez comme ça ?
Je saurais. Alors, je n'ai pas. Je ne pourrais pas me permettre de dire ça parce que je n'ai pas la formation qui permet de pouvoir dire qu'à un moment j'ai fait de la pédopsychologie. Mais je vais vous reposer une question. C'est est-ce qu'une pratique d'attention aux gens, c'est faire de la psychologie ?
En quelque sorte, oui.
Moi, je crois que.
Sans se mettre à la même hauteur qu'un psychologue ?
Moi, je crois que essayer une pratique d'empathie, une pratique de bienveillance, c'est pas forcément de la psychologie. Prêter attention aux émotions, c'est pas de la psychologie, parce que la psychologie, c'est un travail d'analyse et que j'ai pas encore la formation pour faire ça, et ensuite ils sont quand même un peu jeunes pour entrer en analyse. Donc, pour revenir sur les situations intrapersonnelles des enfants, c'est donc qu'est-ce qui suscite une émotion ? C'est toujours un événement, finalement. Et donc, en fait, chaque jour, pouvoir dire ses émotions, c'était pouvoir dire la situation. Alors, le conflit avec le copain, la copine, les rivalités, etc. Et effectivement, il s'est avéré que toutes les cartes qui ont été tirées étaient toujours en lien avec la situation des enfants. Donc, j'ai une élève qui a me signifié un sentiment d'injustice dans un conflit avec un de ses camarades, et elle tire la carte de la justice. Et ce fameux camarade qui avait refusé la communication parce que anxieux devant le conflit, avait fui, et il tire la carte du mât, qui est la carte du personnage, qui est en fait la carte zéro, elle n'a pas de chiffre, qui est la carte du départ, et donc on peut considérer comme la fuite.
Vous voyez ça comme le hasard ou comme le destin ?
Je vois ça comme un biais cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si je suis pragmatique, je pense que dans les cartes, on trouve ce que l'on cherche. Voilà.
Vous croyez en ça ?
Je crois que si les situations sont différentes, alors on va trouver d'autres éléments auxquels raccrocher notre attention.
Le but de cette opération, c'était de traduire l'immatériel par des idées, des sentiments, ce qui fait que donc chaque carte est devenue une émotion par la suite.
C'est pas tout à fait ça. En fait, le principe d'une œuvre d'art, c'est un travail de traduction, en fait, c'est de traduire des idées manquantes. Des formes manquantes. Des idées manquantes, ça serait les philosophes, et puis les formes manquantes, ça serait les artistes plasticiens. Et donc là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il manque du vocabulaire. Donc on a fait un travail plastique pour remplacer le vocabulaire manquant. Sauf que c'est totalement du domaine de l'abstraction, et du coup, ça, c'est très difficile pour les enfants. Enfin, pas plus que les mathématiques, finalement, quand j'y réfléchis. C'est juste qu'on est moins habilité, éduqué à le faire. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'on a fait une première traduction qui était traduire la situation de la carte en un mot, comme ça on a quelque chose auquel se raccrocher, et puis incarner ce mot. Mais comment on représente la jalousie ? Comment on représente le choix ? Comment on représente l'orgueil ? Voilà. Et sans tomber, sans jamais tomber dans des symboliques qui leur appartiennent pas. En fait, le but, c'est aussi déjà de déconstruire, parce qu'en fait, les CM1, c'est pas les CP, et qu'ils ont déjà des constructions culturelles, donc l'amour, c'est le cœur, la nuit, l'étoile, le repos, le lit. Et donc, en fait...
Ils ont des repères qu'on n'a peut-être pas avant dans un âge inférieur.
C'est ça. Et en fait, on voit déjà dans leurs dessins, déjà en CM1, ils commencent déjà à retranscrire comme ça ce qu'ils ont ingurgité. Et c'est marrant de voir comme les enfants sont extrêmement imaginatifs jusqu'au CM1. Le CM1, c'est vraiment charnière. Et puis au CM1, on commence à voir l'humain se transforme en bonhomme, quoi, le rond. Et voilà. Et donc, le but, c'était terriblement d'éviter ça. Et c'est pour ça que j'avais pris le prétexte des plantes. Parce que une plante, on est obligé de faire attention à des tout petits détails pour pouvoir les différencier les unes des autres.
C'est là qu'est venu le nom de ce projet. Finalement, l'oracle végétal, c'est le lien avec les plantes.
En fait, l'objectif, c'était... En fait, le sujet initial avait été soumis ou influé, et en fait, on nous a influencé, et donc en fait, on nous avait soumis l'idée du paysage, comme c'était sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans les plantes, c'est pas tellement... j'ai pas de formation par rapport à ça, donc j'ai pas les compétences pour. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment que les plantes sont utilisées, en fait, ont des propriétés, ont des vertus, et sont utilisées par la médecine pour pouvoir soigner et guérir. Et donc, vraiment, c'est une science de la réparation, comme quand on parle des émotions, puisqu'on parlait de l'analyse tout à l'heure, mais c'est toujours l'idée de réparer et de guérir. Donc, en fait, chaque situation, en fait, a créé un mot. Et ce mot a été incarné par une plante qui venait guérir ou répondre à la problématique énoncée.
Alors j'ai un exemple, par exemple le secret a été traduit par l'échinacée pourpre.
Ouais.
Pourquoi ?
Alors en fait ce qui se passe c'est qu'au départ cette carte c'est la papesse. Et la papesse, c'était une philosophe. Et donc, elle s'était fait passer pour un homme pour pouvoir exercer ses fonctions. Sauf qu'elle est tombée enceinte et que, du coup, on a découvert son secret.
Qu'il y avait un problème, oui.
Donc, en fait, la papesse a été convertie en la carte. Donc, c'est devenu le secret. Et l'échinacée pourpre, au-delà même du fait qu'au niveau visuel, au niveau de la forme, elle a exactement l'arrondi comme le ventre de la papesse sur la carte.
Alors,
elle...
Justement, pardon, je vous coupe, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, une échinacée pourpre, ils ne savent peut-être pas trop ce que c'est. Je m'excuse auprès des fleuristes. Désolé maman si tu m'écoutes. Mais donc c'est une plante vivace et vulgairement on va dire que c'est une marguerite violette. Si on peut vulgairement décrire cette fleur.
Ouais, ça a plus d'amplitude qu'une marguerite parce que ça a vraiment des feuilles qui se recourbent. Et donc voilà, au-delà même du fait que formellement l'arrondi de cette fleur et de cette courbe venait vraiment figurer l'arrondi ou dire comme ça de façon un peu poétique le ventre arrondi de la papesse sur la carte, il s'avère que l'échinacée est aussi employée pour pouvoir guérir les problèmes de gorge. Et la gorge, c'est quand même l'endroit où le non-dit reste bloqué, donc le secret reste bloqué. Par exemple, pour la carte, il faut que j'arrive à me souvenir, mais je crois que c'était la carte du chariot, qui est une carte en fait d'avancement. On voit un chariot en train d'avancer peut-être un petit peu trop vite. On a choisi le bois de noyer qui est en fait utilisé pour les sourciers. Donc, c'est vraiment le bois qui va guider pour repérer les eaux. Donc, il y a vraiment une idée de marcher avec ce bois, d'avancer. Et voilà, donc chaque carte, chaque plante avait été sélectionnée comme ça pour pouvoir en fait signifier la problématique, le mot employé.
Question purement personnelle, votre fleur préférée, c'est laquelle ?
Je trouve les renoncules très très belles, mais je n'achète jamais de fleurs coupées. Je pense qu'elles sont bien mieux là où elles sont.
Bon, on gardera les renoncules quand même. Je vous ai demandé comment les élèves tout à l'heure avaient accueilli le projet. Une fois finalisé, ils l'ont accueilli. Comment le résultat ?
Ils étaient hyper fiers. En fait, on a été un peu pressés par le temps parce que c'était une résidence qui était quand même assez courte, c'était 20 heures. Et donc, il y a eu un vrai travail préparatoire en théorie puisqu'il a fallu... Quand on fait ce genre de résidence, en fait, on doit présenter notre propre travail plastique. Donc, c'est de la théorie. Ensuite, on a dû analyser les cartes. Il y avait quand même 22 arcanes. Donc, ça veut dire 22 cartes à décortiquer. Et puis, il fallait quand même aussi que je leur montre, dans l'histoire de l'art, quel artiste avait réemployé, réutilisé, réinterprété le tarot de Marseille. Et donc, ça a fait beaucoup, beaucoup de théorie et un petit peu. et un petit peu de temps sur la pratique. Et donc, on a vraiment terminé à temps le projet plastique. Moi, je n'ai pas vu... j'ai pas le recul avec eux sur comment ils l'ont vécu. Par contre, je sais qu'ils sont toujours très fiers de mener un projet de A jusqu'à Z, d'avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. Et je pense aussi qu'il y a toujours quelque chose de c'est après coup qu'ils se rendent compte qu'ils ont découvert quelque chose. Et puis maintenant il va falloir l'employer, parce que le but c'est pas que ça reste sous cloche dans un musée, cet objet. Le but c'est que l'équipe pédagogique maintenant emploie ces cartes sur les temps scolaires et les temps parascolaires pour pouvoir aider à la résolution de conflits, ou au moins à l'expression des sentiments, dans le but de régler les conflits ou les problématiques. Et je dis ça entre les enfants, mais aussi en problématique interne, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a de plus en plus d'enfants à besoins spécifiques, qui sont sur le spectre autistique, des enfants qui arrivent et qui ne parlent pas français, enfin voilà. Et donc il y a de plus en plus de difficultés, et donc en fait parler de la carte qu'on tire au hasard, entre guillemets, c'est parler de soi par procuration, et c'est nettement plus facile.
Oui, c'est quelque chose qui va aussi résoudre des problèmes plus tard, qui n'est pas juste ponctuel et qui restera, ouais, comme vous dites, sous cloche. On ne va pas oublier non plus M. Ludovic Dacosta.
Non, il a été formidable, il faut le dire.
Qui est enseignant en CM1, il a contribué également à ce projet et je pense qu'il était fier de ses élèves.
C'est à lui qu'il faudrait poser la question.
On lui demandera.
Mais oui, je crois qu'il était très content d'eux, ouais.
Horribulaire, ce projet il tournait autour de multiples thématiques. On a pu le voir ensemble, en particulier en lien avec la végétation, la nature, un petit peu le développement durable aussi, les sentiments qu'on ressent en contact avec cette nature. Est-ce que c'est des enjeux importants de transmettre à la jeune génération aussi ?
Moi, je crois qu'on vit une crise du sensible et que, les rapports qu'on entretient aux gens sont les mêmes que les rapports qu'on entretient aux choses. Et que c'est difficile d'enseigner des protocoles, c'est-à-dire trier, économiser l'électricité, sans avoir vraiment une économie, une conscience, en fait, de chaque chose. Et je crois que la manière dont on traite les animaux, dont on traite la nature, dont on traite la terre, les cailloux et nos collaborateurs, nos enfants, c'est une seule et même chose, quoi. Donc c'est pas un travail sur l'écologie, j'ai pas cette prétention là, mais c'est vraiment un travail du sensible, et c'est vraiment un travail qui en fait vraiment en lien avec ma pratique, c'est un travail sur les relations, en fait.
Pour les auditeurs qui aimeraient voir ce travail accompli, qu'est-ce qu'ils ont comme solution pour le voir?
Ils ont mon Instagram et mon Facebook personnel.
Aurélie Beller.
Aurélie Beller, voilà.
Vous ouvrez le bilan de ce projet avec une phrase que j'ai reçue, moi, par mail. Alors, il y en a deux. On va commencer par la première. La nature nous offre ce que l'homme en fait. Est-ce que c'est aussi un objectif de faire changer les hommes dans leur manière de faire envers la nature ? Vous en avez parlé un petit peu avec les animaux, avec la nature. C'est aussi ça, l'objectif ?
Alors, c'est pas moi qui ai émis ce sujet, c'est ce que je disais, c'était ce qui nous avait été soumis comme idée pour qu'on travaille dessus. J'aurais pas dit les choses ainsi, et j'aurais pas dit les choses ainsi pour la simple et bonne raison que ça place encore une fois l'être humain au centre du vivant. Et c'est pas comme ça que j'envisage les choses. J'estime que c'est les relations qui sont au centre des vivants. Et non, j'ai pas la prétention de changer les hommes. Les femmes, peut-être.
Et puis elle s'ensuit par le remède se trouve toujours presque à côté du poison. Elle est intéressante cette phrase parce qu'au final, elle est peut-être aussi un petit peu en lien avec ce que vous disiez, régler les conflits entre enfants. Au final, peut-être que la solution, elle est dans le conflit, finalement.
Ça dépend du conflit. Par contre, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette phrase, c'est qu'elle nous signifie combien une chose n'est ni positive ni négative, mais que c'est toujours l'attention qu'on pose dessus qui va faire son effet. Et donc, on en revient à la question de l'intention, qui est un peu la base pour faire œuvre. Et donc, c'est comment, en fait, le bien et le mal, s'ils existent, en tout cas, sont extrêmement poreux, en fait. Et on le voit bien dans nos relations, c'est-à-dire on a toujours l'impression d'être hyper juste, mais l'autre, il a une version totalement autre. Et pour les plantes, chaque plante, si vous prenez telle quantité, ça vous guérit. Et puis, puis un tout petit peu au-dessus, fondamentalement, elles peuvent toutes vous tuer, Alexei. Donc voilà, c'est faire attention à nos actions. Voilà.
Merci. Aurélie Belair d'être venue nous présenter ce beau projet. Ça s'appelle l'Oracle Végétal. C'est réalisé avec les élèves en CM1 de l'école Les Remparts à la Charité sur Loire. Où est-ce qu'on peut retrouver vos infos? Donc sur la page Facebook, vous nous l'avez dit, sur Instagram aussi, sur votre site internet.
Il n'est pas à jour.
Il est également. Bon, bah, quand il sera mis à jour, on vous invitera à le consulter. C'est quoi la suite pour vous?
La suite, c'est une installation vidéo qui va être projetée au ministère du Développement durable en Belgique et qui traite justement nos rapports aux vivants. Et en fait, la suite en ce moment, c'est que ce projet, c'est un projet que moi, j'avais envie de faire pour moi et que du coup j'ai fait avec les élèves, et donc je suis en train de me soumettre à exactement le même exercice que j'avais proposé aux élèves. Donc je suis moi-même en train de faire un tarot de Marseille, et du coup j'estime qu'on va laisser la parole aux enfants pour qu'ils règlent leurs conflits entre eux avec leurs mots et leurs ressentis, et donc je suis en train de le faire pour les adultes avec exactement les mêmes procédés. Le même procédé, les mêmes outils, c'est-à-dire j'ai les mêmes crayons de couleurs et avec la même, les mêmes restrictions, les mêmes contraintes, c'est-à-dire les plantes, le mot, enfin vraiment le même procédé.
Merci.
Je vous en prie.
Aurélie Belair, Bac FM, notre suite à nous, elle est en musique. Le meilleur du son pop rock non-stop revient à tout de suite. Passez un bon week-end. Je vous dis à lundi. Bye. Bac FM, 13h et quelques minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je m'appelle Théo. Je vous accompagne tous les jours à la même heure. Que vous soyez en voiture, au boulot, voire même entre amis autour d'une table à jouer aux cartes. Alors justement, les cartes, transition trouvée. J'ai pas fait exprès. L'oracle végétal, c'est un projet mené à l'école des Remparts de la Charité sur Loire pour la classe de CM1. C'est à l'initiative de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Et surtout d'Aurélie Belair, que j'ai le plaisir de recevoir dans le studio. Bonjour Aurélie.
Bonjour Théo.
Alors vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Dijon, finaliste pour le prix Talent Contemporain 2015 de la Fondation François Schneider. Vous avez participé à de nombreuses expositions collectives, et puis vous avez bénéficié également d'une exposition aux ateliers Vortex à Dijon et à la galerie Jérôme Pochard.
Pochan.
Vous êtes ici pour nous parler du projet L'Oracle Végétal pour les élèves de CM1 de l'école des Remparts de la Charité sur Loire, je le disais à l'instant. L'objectif final, c'est la création d'un jeu de cartes de 22 cartes fabriquées en papier recyclé et toile de peinture. C'est un projet mené du 7 au 21 mars, ce qui a permis plusieurs étapes. On va revenir sur les différentes étapes, mais avant, comment les élèves ont accueilli ce projet lorsque vous avez présenté, c'était le 7 mars?
Ils sont toujours plutôt enthousiastes à l'idée de faire autre chose que des mathématiques, de l'histoire et de la géométrie. Donc les accueils des enfants sont toujours très joyeux, aussi parce qu'ils espèrent beaucoup le moment où on passe à la pratique.
Et c'est le moment le plus ludique pour eux.
C'est le moment le plus important
à côté de la
pour
théorie.
Eux.
Ouais. Le lendemain, vous avez mis en place un atelier, on peut dire c'était un tour d'émotion.
Oui, en fait, c'est étroitement lié au projet. Ce qui se passe, c'est que j'ai pu être au contact des élèves à travers différentes fonctions, puisque j'ai été professeure dans le secondaire d'art plastique. Et puis récemment, j'ai travaillé en tant qu'animatrice socioculturelle dans un établissement scolaire à pédagogie active. Et donc, j'ai pu rencontrer les élèves sur leur temps extra et parascolaire, c'est-à-dire sur leur temps libre, mais au sein des établissements scolaires. Et donc, ça m'a permis d'observer les enfants dans les liens qui se tissent entre eux et les conflits. Et j'ai pu observer ça pendant un an, et j'ai été fascinée par ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les conflits naissaient en fait d'un manque de vocabulaire. Et ce vocabulaire est lié à la mise en mots des émotions. Et donc, quand on ne sait plus dire, on en vient à la violence physique. Donc, j'avais vraiment envie de créer un outil pédagogique et artistique pour pouvoir en fait ouvrir l'éventail du vocabulaire émotionnel pour que les enfants aient, pour maintenant et surtout pour le futur, des outils pour communiquer, non pas positivement, mais communiquer le soi, quoi, et être en paix dans ses relations avec les autres.
C'est ressortir un petit peu ses émotions à travers les œuvres, c'est ce que font majoritairement les artistes aussi, multiples qu'ils soient.
Là, pour le coup, l'œuvre, c'était un prétexte. Pour moi, c'était vraiment un travail où où ils devaient en fait avoir un support, parce que c'est toujours difficile de parler de soi, parce qu'on n'a pas les outils au niveau du vocabulaire. Quand on parle des émotions, en fait, on apprend aux enfants, et encore pas tous, 5 émotions, qui sont la peur, la colère, la joie, la tristesse et le dégoût. Sauf qu'en fait, les raisons, il existe différentes peurs, il existe différents dégoûts, et en fait, on manque terriblement de mots pour pouvoir communiquer et dire les météos intérieures. Et le travail des philosophes, par exemple, c'est d'inventer des mots pour des idées manquantes. On a inventé des formes pour des mots manquants quant aux émotions. Voilà.
Le début de cette création, elle a été appuyée par une œuvre, ça s'appelle Le Tarot de Marseille,
ouais,
de Pierre Madonnier, je le prononce bien.
Oui, je crois.
Fait en 1709, d'où le lien que je faisais justement en présentation. Pour l'histoire, Pierre Madonnier, il a vécu à Dijon, en Bourgogne, ouais, chez nous. Pourquoi cette œuvre ?
Alors, c'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre plastique au sens où on l'entend dans un monde contemporain.
Oui.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 1709, il y a eu un hiver en Europe terrible, et les aristocrates s'ennuyaient fort parce qu'ils étaient enfermés chez eux. Et donc, le duc de Bourgogne a commandé à Pierre Madonnier, qui était donc en fait un éditeur, un jeu de cartes qui permettait en fait de réunir les aristocrates le soir pour pouvoir échanger et discuter sur les problématiques de la journée. Et donc, comme son nom le porte très très bien, ça s'appelle le Tarot de Marseille, pour une raison obscure.
C'est vrai, parce que pour le coup, Marseille n'était pas encore en Bourgogne.
Fait, c'est parce que, si vous voulez, c'est un objet populaire, et donc, en fait, du coup, il n'y a pas un premier objet, c'est-à-dire il y a une suite d'appropriations, comme ça, et donc de réinterprétations. Par contre, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que quand les cartomanciers, cières, lisent les cartes, elles les décryptent, elles les analysent de la même façon que lorsqu'on décrypte ou qu'on lit une œuvre ou une peinture. Et donc, ce tarot, c'était vraiment, encore une fois, un prétexte pour donner des outils aux enfants pour pouvoir décrypter les œuvres. Puisque selon si le personnage regarde sur la droite ou la gauche, ou ça indique une action passée ou future, si c'est féminin ou masculin, ça indique une intention du genre dit féminin ou du genre dit masculin. Donc, en fait, il y a tout un tas d'événements qui se passent dans ces cartes et qui sont très faciles parce que c'est l'illustration. Et donc, c'est facile pour les enfants de pouvoir les décrypter. Là où, sur des peintures plus ou moins figuratives, c'est plus compliqué.
C'est facile pour eux de comprendre ça. Étant en CM1, ils ont quel âge en CM1 ? Ils ont 8-9 ans, autour. C'est facile pour eux de comprendre, de ressentir ces émotions-là à travers, justement, des cartes, à réussir à les lire, comme vous l'exprimez là, au micro ?
Non. Non, c'est pas facile, mais alors ça vient pas des enfants, ça vient dans le fait que en fait on a aucune éducation affective. Donc non, c'est pas facile de ressentir, et non, c'est pas facile de comprendre et donc de dire ce qu'on ressent, même par rapport à un objet. Donc moi j'ai fait un travail d'accompagnement, donc déjà avec eux sur le tour des émotions, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment je me sens aujourd'hui, quels mots je peux employer pour dire comment je me sens quand on sort de la météo, c'est-à-dire aujourd'hui c'est soleil, etc., pluie, orage. En fait, je leur ai donné, je les ai pas laissés tout seuls avec ces cartes, on les a analysées ensemble. Ils savent qu'il y a un langage, on a vu ensemble le langage couleur, c'est-à-dire qu'en fait, chaque couleur employée par le tarot de Marseille a une symbolique. Le rouge, très étonnamment, c'est la couleur des émotions, enfin des passions. Le vert, c'est la couleur employée pour représenter la nature, donc la renaissance. Le jaune va référer à tout ce qui est de l'ordre du sacré, parce que c'est quand même un objet qui fait référence à la Bible. C'est les richesses, mais les richesses spirituelles et matérielles. Donc ça, je les ai accompagnés. Ils l'ont pas deviné, ça se devine pas, c'est quand même des outils culturels, mais après le sentiment que eux, c'est-à-dire ce que eux pouvaient dire de la carte, comment ils se sentaient par rapport à la carte, ça leur était tout à fait personnel. Et il y a des cartes qui sont quand même Qui peuvent mettre mal à l'aise enfant comme adulte. Je pense à la carte du diable qui est la carte de l'excès, où on voit un personnage qui a à la fois les attributs féminins et à la fois les attributs masculins.
Oui, ça, ils arrivent quand même à le déceler malgré leurs yeux d'enfant, oui.
Ah bah, c'est évident. Je me suis demandé, on a beaucoup réfléchi avec Ludovic Dacosta, qui était donc l'enseignant. Par exemple, l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort, Pierre Madénier ne l'a pas titré tellement elle faisait peur, on ne pouvait pas dire tellement c'était inquiétant. Je suis obligée de passer par une phase avec les enfants où ils disent ce qu'ils ressentent et qu'ils se sentent surtout accompagnés et pas seuls, livrés avec leurs émotions face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
Et puis si on avance progressivement dans le temps, on arrive les 10 et 11 mars, les élèves ont créé leurs propres cartes dans l'objectif de les tirer derrière. Ensuite, dans la semaine du 14 au 20, donc, et puis vous dites que ce qui est ressorti de ce tirage, c'est que chaque résultat de carte faisait lien avec une situation intrapersonnelle de chaque enfant.
Oui. Alors juste pour revenir sur la fabrication des cartes, la génération qui arrive est très sensibilisée à toutes les problématiques de recyclage, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'en fait, on s'inquiète des économies sur certains points parce qu'on en entend beaucoup parler, mais du coup il y a parfois des dépenses inutiles sur plein d'autres sujets auxquels on prête pas attention. Et donc pour moi c'était important que on utilise tout leur brouillon qui décolle, c'est-à-dire tout ce qui normalement aurait dû être mis à la poubelle et qui est synonyme d'échec, de ce qui n'a pas été réussi, de ce qui était raté. C'était pour moi très important de le réemployer pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes leurs cartes en papier recyclé. Donc ça donne vraiment déjà un projet qui est unique, c'est-à-dire que chaque carte est unique au sens où l'enfant a son propos par rapport à cette carte, mais aussi du fait qu'il l'ait fabriquée, elle a ses aspérités, ses défauts, elle a une identité propre. Ça, c'est la première chose, et je ne me rappelle plus de la question.
La question, elle était que vous étiez rendu compte que ce qui ressortait de ces tirages, c'est qu'il y avait un lien avec une situation intrapersonnelle de chaque enfant.
Ouais.
Il ressortait une émotion certaine.
Bon, alors ça, c'est... Donc, toutes nos séances, elles commençaient par le tour des émotions. Donc, on prenait bien quand même 20-30 minutes.
Chaque séance.
Chaque séance, bah oui. Parce que pour déployer l'éventail, du vocabulaire, ça prend du temps. Et qu'il faut inventer des mots et que c'est un travail de labour. Enfin, il faut chercher ces mots. Et du coup, on commençait par là.
Il y a une sorte de psychologie dans ce que vous avez fait un petit peu. Est-ce que vous le voyez comme ça ?
Je saurais. Alors, je pourrais pas me permettre de dire ça parce que je n'ai pas la formation qui permet de pouvoir dire que à un moment j'ai fait de la pédopsychologie. Je vais vous reposer une question. C'est est-ce qu'une pratique d'attention aux gens, c'est faire de la psychologie ?
En quelque sorte, oui.
Moi, je crois que
sans se mettre à la même hauteur qu'un psychologue.
Moi, je crois que une pratique d'empathie, une pratique de bienveillance, c'est pas forcément de la psychologie. Prêter attention aux émotions, c'est pas de la psychologie, parce que la psychologie, c'est un travail d'analyse j'ai pas encore la formation pour faire ça, et ensuite, ils sont quand même un peu jeunes pour entrer en analyse. Donc, pour revenir sur les situations intrapersonnelles des enfants, c'est donc qu'est-ce qui suscite une émotion ? C'est toujours un événement, finalement. Et donc, en fait, chaque jour, pouvoir dire ses émotions, c'était pouvoir dire la situation. Alors, le conflit avec le copain, la copine, les rivalités, etc. Et effectivement, il s'est avéré que toutes les cartes qui ont été tirées étaient toujours en lien avec la situation des enfants. Donc, j'ai une élève qui a me signifié un sentiment d'injustice dans un conflit avec un de ses camarades, et elle tire la carte de la justice. Et ce fameux camarade qui avait refusé la communication parce que anxieux devant le conflit, avait fui, et il tire la carte du mât, qui est la carte du personnage, qui est en fait la carte zéro, elle n'a pas de chiffre, qui est la carte du départ, et donc on peut considérer comme la fuite.
Vous voyez ça comme le hasard ou comme le destin ?
Je vois ça comme un biais cognitif. Alors... C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si je suis pragmatique, je pense que dans les cartes, on trouve ce que l'on cherche. Voilà.
Vous croyez en ça ?
Je crois que si les situations sont différentes, alors on va trouver d'autres éléments auxquels raccrocher notre attention.
Le but de cette opération, c'était de traduire l'immatériel par des idées, des sentiments, ce qui fait que donc chaque carte est devenue une émotion par la suite.
C'est pas tout à fait ça. En fait, le principe d'une œuvre d'art, c'est un travail de traduction, en fait. C'est de traduire des idées manquantes, des formes manquantes. Les idées manquantes, ça serait les philosophes, et puis les formes manquantes, ça serait les artistes plasticiens. Et donc là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il manque du vocabulaire. Donc on a fait un travail plastique pour remplacer le vocabulaire manquant. Sauf que c'est totalement du domaine de l'abstraction, et du coup ça c'est très difficile pour les enfants. Enfin pas plus que les mathématiques finalement quand j'y réfléchis, c'est juste qu'on est moins habilité et éduqué à le faire. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'on a fait une première traduction qui était traduire la situation de la carte en un mot. Comme ça, on a quelque chose auquel se raccrocher. Et puis, incarner ce mot. Mais comment on représente la jalousie ? Comment on représente le choix ? Comment on représente l'orgueil ? Voilà. Et sans jamais tomber dans des symboliques qui leur appartiennent pas. En fait, le but, c'est aussi déjà de déconstruire, parce qu'en fait, les CM1, c'est pas les CP, et qu'ils ont déjà des constructions culturelles, donc l'amour, c'est le cœur, la nuit, l'étoile, le repos, le lit. Et donc, en fait...
Ils ont des repères qu'on n'a peut-être pas avant dans un âge inférieur.
C'est ça. Et en fait, on voit déjà dans leurs dessins, déjà en CM1, ils commencent déjà à retranscrire comme ça ce qu'ils ont ingurgité. Et c'est marrant de voir comme les enfants sont extrêmement imaginatifs jusqu'au CM1. Le CM1, c'est vraiment charnière. Et puis au CM1, on commence à voir l'humain se transforme en bonhomme, quoi, le rond. Et voilà. Et donc, le but, c'était terriblement d'éviter ça. Et c'est pour ça que j'avais pris le prétexte des plantes. Parce que une plante, on est obligé de faire attention à des tout petits détails pour pouvoir les différencier les unes des autres.
C'est là qu'est venu le nom de ce projet, finalement, l'oracle végétal. C'est le lien avec les plantes.
En fait, l'objectif, c'était... En fait, le sujet initial avait été soumis ou influé, et en fait, on nous a influencé, et donc, en fait, on nous avait soumis l'idée du paysage, comme c'était sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans les plantes, c'est pas tellement... j'ai pas de formation par rapport à ça, donc j'ai pas les compétences pour. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment que les plantes sont utilisées, en fait, ont des propriétés, ont des vertus, et sont utilisées par la médecine pour pouvoir soigner et guérir. Et donc, vraiment, c'est une science de la réparation, comme quand on parle des émotions, puisqu'on parlait de l'analyse tout à l'heure, mais c'est toujours l'idée de réparer et de guérir. Donc, en fait, chaque situation, en fait, a créé un mot. Et ce mot a été incarné par une plante qui venait guérir ou répondre à la problématique énoncée.
Alors j'ai un exemple, par exemple le secret a été traduit par l'échinacée pourpre.
Ouais.
Pourquoi ?
Alors en fait ce qui se passe c'est qu'au départ cette carte c'est la papesse. Et la papesse, c'était une philosophe, et donc elle s'était fait passer pour un homme pour pouvoir exercer ses fonctions, sauf qu'elle est tombée enceinte et que du coup, on a découvert son secret.
Qu'il y avait un problème, oui.
Donc en fait, la papesse a été convertie en la carte, donc c'est devenu le secret. Et l'échinacée pourpre, au-delà même du fait qu'au niveau visuel, au niveau de la forme, elle a exactement l'arrondi comme le ventre de la papesse sur la carte.
Alors, justement, pardon, je vous coupe, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, une échinacée pourpre, ils savent peut-être pas trop ce que c'est. Je m'excuse auprès des fleuristes. Désolé maman si tu m'écoutes. Mais donc c'est une plante vivace et vulgairement on va dire que c'est une marguerite violette. Si on peut vulgairement décrire cette fleur.
Ouais, ça a plus d'amplitude qu'une marguerite parce que ça a vraiment des feuilles qui se recourbent. Et donc voilà, au-delà même du fait que formellement l'arrondi de cette fleur et de cette courbe venait vraiment figurer l'arrondi ou dire comme ça de façon un peu poétique le ventre arrondi de la papesse sur la carte, il s'avère que l'échinacée est aussi employée pour pouvoir guérir les problèmes de gorge Et la gorge, c'est quand même l'endroit où le non-dit reste bloqué, donc le secret reste bloqué. Par exemple, pour la carte, il faut que j'arrive à me souvenir, mais je crois que c'était la carte du chariot, qui est une carte en fait d'avancement. On voit un chariot en train d'avancer peut-être un petit peu trop vite. On a choisi le bois de noyer, qui est en fait utilisé pour les sourciers. Donc, c'est vraiment le bois qui va guider pour repérer les eaux. Donc, il y a vraiment une idée de marcher avec ce bois, d'avancer. Et voilà, donc chaque carte, chaque plante avait été sélectionnée comme ça pour pouvoir en fait signifier la problématique, le mot employé.
Question purement personnelle, votre fleur préférée, c'est laquelle ?
Je trouve les renoncules très très belles, mais je n'achète jamais de fleurs coupées. Je pense qu'elles sont bien mieux là où elles sont.
Bon, on gardera les renoncules quand même. Je vous ai demandé comment les élèves tout à l'heure avaient accueilli le projet. Une fois finalisé, ils l'ont accueilli. Comment le résultat ?
Ils étaient hyper fiers. En fait, on a été un peu pressés par le temps parce que c'était une résidence qui était quand même assez courte, c'était 20 heures. Et donc, il y a eu un vrai travail préparatoire en théorie puisqu'il a fallu, quand on fait ce genre de résidence, en fait, on doit présenter notre propre travail plastique. Donc, ça, c'est de la théorie. Ensuite, on a dû analyser les cartes. Il y avait quand même 22 arcanes, donc ça veut dire 22 cartes à décortiquer. Et puis, il fallait quand même aussi que je leur montre dans l'histoire de l'art, quel artiste avait réemployé, réutilisé, réinterprété le tarot de Marseille. Et donc, ça a fait beaucoup, beaucoup de théorie et un petit peu de temps sur la pratique. Et donc, on a vraiment terminé à temps le projet plastique. Moi, je n'ai pas vu... j'ai pas le recul avec eux sur comment ils l'ont vécu. Par contre, je sais qu'ils sont toujours très fiers de mener un projet de A jusqu'à Z, d'avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. Et je pense aussi qu'il y a toujours quelque chose de c'est après coup qu'ils se rendent compte qu'ils ont découvert quelque chose. Et puis maintenant il va falloir l'employer parce que le but c'est pas que ça reste sous cloche dans un musée cet objet. Le but c'est que l'équipe pédagogique maintenant emploie ces cartes sur les temps scolaires et les temps parascolaires pour pouvoir aider à la résolution de conflits ou au moins à l'expression des sentiments dans le but de régler les conflits ou les problématiques. Et je dis ça entre les enfants, mais aussi en problématique interne, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a de plus en plus d'enfants à besoins spécifiques, qui sont sur le spectre autistique, des enfants qui arrivent et qui ne parlent pas français. Enfin voilà. Et donc il y a de plus en plus de difficultés. Et donc en fait parler d'une carte, parler de la carte qu'on tire au hasard entre guillemets, c'est parler de soi par procuration, et c'est nettement plus facile.
Oui, c'est quelque chose qui va aussi résoudre des problèmes plus tard, qui n'est pas juste ponctuel et qui restera, ouais, comme vous dites, sous cloche. On ne va pas oublier non plus M. Ludovic Dacosta.
Non, il a été formidable, il faut le dire.
Qui est enseignant en CM1, il a contribué également à ce projet et je pense qu'il était fier de ses élèves.
C'est à lui qu'il faudrait poser la question.
On lui demandera.
Mais oui, je crois qu'il était très content d'eux, ouais.
Horribulaire, ce projet il tournait autour de multiples thématiques. On a pu le voir ensemble, en particulier en lien avec la végétation, la nature, un petit peu le développement durable aussi, les sentiments qu'on ressent en contact avec cette nature. Est-ce que c'est des enjeux importants de transmettre à la jeune génération aussi ?
Moi, je crois qu'on vit une crise du sensible. Et que, en fait, les rapports qu'on entretient aux gens sont les mêmes que les rapports qu'on entretient aux choses. Et que c'est difficile d'enseigner des protocoles, c'est-à-dire trier, économiser l'électricité, sans avoir vraiment une économie, une conscience, en fait, de chaque chose. Et je crois que la manière dont on traite les animaux, dont on traite la nature, dont on traite la terre, les cailloux et nos collaborateurs, nos enfants, c'est une seule et même chose, quoi. Donc, c'est pas un travail sur l'écologie, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est vraiment un travail du sensible, et c'est vraiment un travail qui, en fait, vraiment en lien avec ma pratique, c'est un travail sur les relations, en fait.
Pour les auditeurs qui aimeraient voir ce travail accompli, qu'est-ce qu'ils ont comme solution pour le voir ?
Ils ont mon Instagram et mon Facebook personnel.
Aurélie Beller.
Aurélie Beller, voilà.
Vous ouvrez le bilan de ce projet avec une phrase que j'ai reçue moi par mail. Alors il y en a deux. On va commencer par la première. La nature nous offre ce que l'homme en fait. Est-ce que c'est aussi un objectif de faire changer les hommes dans leur manière de faire envers la nature ? Vous en avez parlé un petit peu avec les animaux, avec la nature. C'est aussi ça l'objectif ?
Alors, ce n'est pas moi qui ai émis ce sujet, c'est ce que je disais, c'était ce qui nous avait été soumis comme idée pour qu'on travaille dessus. J'aurais pas dit les choses ainsi, et j'aurais pas dit les choses ainsi pour la simple et bonne raison que ça place encore une fois l'être humain au centre du vivant. Et c'est pas comme ça que j'envisage les choses. J'estime que c'est les relations qui sont au centre des vivants. Et non, j'ai pas la prétention de changer les hommes. Les femmes, peut-être.
Et puis elle s'ensuit par le remède se trouve toujours presque à côté du poison. Elle est intéressante cette phrase parce qu'au final, elle est peut-être aussi un petit peu en lien avec ce que vous disiez. Régler les conflits entre enfants. Au final, peut-être que la solution, elle est dans le conflit, finalement.
Ça dépend du conflit. Par contre, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette phrase, c'est qu'elle nous signifie combien une chose n'est ni positive ni négative, mais que c'est toujours l'intention, l'attention qu'on pose dessus qui va faire son effet. Et donc, on en revient à la question de l'intention qui est un peu la base pour faire œuvre. Et donc, c'est comment, en fait, le bien et le mal, s'ils existent, en tout cas, sont extrêmement poreux, en fait. Et on le voit bien dans nos relations, c'est-à-dire on a toujours l'impression d'être hyper juste, mais l'autre, il a une version totalement autre. Et pour les plantes, chaque plante, si vous prenez telle quantité, ça vous guérit. Et puis, un tout petit peu au-dessus, fondamentalement, elles peuvent toutes vous tuer, à l'excès. Donc voilà, c'est faire attention à nos actions. Voilà.
Merci, Aurélie Belair, d'être venue nous présenter ce beau projet. Ça s'appelle L'Oracle Végétal. C'est réalisé avec les élèves en CM1 de l'école Les Remparts à la Charité-sur-Loire. Où est-ce qu'on peut retrouver vos infos? Donc sur la page Facebook, vous nous l'avez dit, sur Instagram aussi, sur votre site internet.
Il n'est pas à jour.
Il est également. Bon, quand il sera mis à jour, on vous invitera à le consulter. C'est quoi la suite pour vous?
La suite, c'est une installation vidéo qui va être projetée au ministère du Développement Durable en Belgique et qui traite justement nos rapports aux vivants. Et en fait, la suite en ce moment, c'est que ce projet, c'est un projet que moi, j'avais envie de faire pour moi et que du coup j'ai fait avec les élèves et donc je suis en train de me soumettre à exactement le même exercice que j'avais proposé aux élèves. Donc je suis moi-même en train de faire un tarot de Marseille et du coup j'estime qu'on va laisser la parole aux enfants pour qu'ils règlent leurs conflits entre eux avec leurs mots et leurs ressentis et donc je suis en train de le faire pour les adultes avec exactement les mêmes procédés. Le même procédé, les mêmes outils, c'est-à-dire j'ai les mêmes crayons de couleurs et avec la même, les mêmes restrictions, les mêmes contraintes, c'est-à-dire les plantes, le mot, enfin vraiment le même procédé.
Merci.
Je vous en prie. Aurélie
Belair, Bac FM, notre suite à nous, elle est en musique. Le meilleur du son pop rock non-stop revient tout de suite. Passez un bon week-end. Je vous dis à lundi. Bye.